Le snobisme a quelque chose de presque sympa, cool.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, voilà. Que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, fatigue dans nos voix, une forme d'énervement quelconque, peut-être que nous venons d'enregistrer 20 minutes de ce podcast et que je viens de faire une malheureuse manipulation qui nous a fait perdre vraiment tout l'enregistrement et que nous reprenons tout depuis le début.
Voilà. C'est pas grave, ça arrive même au meilleur.
Ça arrive même au meilleur. Et là, c'est donc la V2 de ce podcast de Noël, dans lequel nous faisons un gros épisode de la bibliothèque à la loupe pour parler de livres, lectures marquantes de 2021, mais pas que. Plusieurs livres chacun. Comment allons-nous choisir? Parce que là, tout est professionnel, hein, vraiment. Alors, on a une tasse ici,
ouais.
On a un thé qu'on a fini pendant le premier épisode, pendant le premier essai. Lisa, comment tire-t-on au sort?
Et du coup, ben, c'est ça, on n'arrivait pas d'ailleurs, en préparant l'épisode, on n'arrivait pas vraiment à classer les livres. Du coup, on s'est dit que nous allons tirer au sort. Donc là, nous avons tous les titres dans une jolie petite tasse. Il y a marqué Saloué, Pompéi et le Vésuve.
Tout à fait, donc, c'est une tasse maison en plus, j'ai l'impression.
Non, je crois qu'elle m'a été juste vendue par des étudiants qui voulaient financer leur voyage en Italie. Bon, voilà. Donc, je vais tirer le premier titre du livre, qui est One Piece de Eiichiro Oda. Nous avions terminé par...
c'est parfait. C'est précisément le dernier dont on avait parlé.
Du coup, voilà. Je pense que si c'est le titre le plus connu que nous avons choisi pour cet épisode...
C'est un choix de Lisa, d'ailleurs.
Voilà, c'est un choix, puisque c'est... il me semble que c'est le premier... C'est un des premiers mangas, en tout cas, que j'ai lu quand j'ai commencé à devenir un peu obsédée par les mangas quand j'étais au collège-lycée. Et donc, One Piece est un manga, comme je viens de le dire.
Oh, il y a un épuisement.
Donc, One Piece est un manga écrit par Eiichiro Oda et publié pour la première fois en 1997. Et donc, la publication a été ininterrompue depuis. Il me semble que dernièrement en France, il y a le 100e tome de la saga qui a été publié. Et deux années plus tard, après la première publication, donc en 1999, les premiers épisodes de l'anime se basant sur le manga ont été sortis. Donc pour faire simple, un résumé, c'est l'histoire de Luffy qui a pour ambition, on va dire ça comme ça, de devenir le roi des pirates. Donc, c'est un manga qui joue un peu dans un univers parallèle, un autre, mais qui a quand même pas mal de similarités, je trouve. Et puis donc, Luffy veut devenir le roi des pirates et décide, le jour de ses 17 ans, de prendre la mer. Premièrement, il part tout seul et du coup, il commence par assembler un équipage. Donc nous avons le premier membre, ça va être Zoro, un épéiste qui se bat avec trois sabres. Après, il y a Nami qui va devenir la navigatrice. Usopp qui est un peu l'homme à tout faire et le sniper. Après, il y a, il me semble, Sanji qui va être le cuistot. Et puis après, donc, avec ce groupe de personnages, d'équipage, ils vont se rendre sur la mer, la plus grande mer et la mer la plus dangereuse du monde. Qui s'appelle Grand Line, et où se trouve le One Piece, qui est le trésor absolu pour les pirates. On n'est même pas sûr s'il existe ou pas. Donc en gros, ils partent à la recherche du One Piece. Et donc, une fois sur Grand Line, ils vont rencontrer genre, d'autres personnages qui vont devenir membres de leur équipage, notamment un renne, qui peut prendre forme humaine, qui va être le docteur, une archéologue, Robin, et puis un charpentier, Frankie, qui est qui d'autre encore, et bien sûr Brooke, qui est un squelette musicien. Voilà, donc c'est vraiment, Eiichiro Oda a vraiment laissé cours à son imagination lorsqu'il a écrit ce manga. Mais d'un autre côté, je trouve que genre, récemment j'ai recommencé à regarder les épisodes depuis le début. Ce qui est un peu une tâche titanesque, mais bon, voilà. Et je me suis rendu compte que ce manga, il aborde quand même pas mal de sujets très universels, notamment la question de la liberté et un peu de la désobéissance civile, parce que ce groupe de pirates bien qu'ils soient de hors la loi, ne sont pas les plus, enfin ne sont pas méchants du tout dans le dans la saga. Au contraire, on trouve que eux qui vivent selon leur idéal est parfois même plus juste que l'ordre mis en place dans ce monde dans lequel eux-mêmes évoluent. Ça aborde aussi un peu les questions du racisme, de l'inclusion, enfin de la différence, puisque dans ce, il y a toutes sortes de créatures plus bizarroïdes les unes que les autres, je vais dire ça comme ça, qui évoluent. Et cet équipage un peu, je pense, un idéal, puisque, voilà, comme je disais, il prône cette espèce de liberté absolue, mais sans forcément enfreindre celle des autres. Du respect aussi, de l'inclusion, de l'acceptance de l'autre.
L'acceptance,
c'est quoi le nom ?
Acceptation.
Qui prône du coup l'acceptation de.
Mais ça, on garde ça. Ça, c'est dans le montage, ça.
Voilà, on sent la fatigue, puisqu'on on prononce.
Ouais, non, là, les mots ne sortent plus.
Les mots ne sortent plus. Donc voilà. C'est un manga, du coup, que je peux conseiller.
À 2 degrés de lecture.
À 2 degrés de lecture, exactement. Genre, qui a un peu ce côté très, très divertissant. Et puis, de l'autre côté, je pense qu'il y a d'autres gens qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais que je trouve à un degré très philosophique aussi, et que ça vaut un peu le coup de se pencher sur les différentes histoires qui sont racontées dans ce manga. Et voilà, donc je rappelle un peu les références. One Piece de Eiichiro Oda, et qui est publié en France, il me semble, aux éditions Glénat.
Chez Glénat.
Voilà, je vais tirer le prochain. Qui est D'autres vies que la mienne, de Emmanuel Carrère.
Ça, c'est mon choix. C'est d'ailleurs un de ceux pour lesquels on a le plus dû tordre le concept de ce truc-là, parce que ça n'est pas vraiment le genre de thème qu'on aborde d'habitude dans la loupe, mais cela dit, on parle un peu des livres dont on a envie de parler, c'est surtout ça. Et aussi parce qu'il est sorti il y a un moment, en 2009, chez POL. Alors moi, j'ai une passion pour Emmanuel Carrère. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, vraiment, donc c'est quelque chose d'assez clivant. Moi, j'aime beaucoup. Et parmi ceux d'Emmanuel Carrère que j'ai lu cette année, et celui qui m'a le plus marqué, c'est Une autre vie que la mienne. Donc, c'est en fait une histoire en deux parties, mais qui, je le dis d'entrée, a vraiment rapport à différentes visions du décès, du deuil. Ce sont deux histoires qu'a vécu l'auteur, vraiment, et qu'il raconte en tant qu'être humain, que Emmanuel Carrère, qui a vécu ces deux histoires. La première, c'est au Sri Lanka en 2004, le tsunami qui avait ravagé le pays en 2004, et qui emporte la petite Juliette, qui est la fille d'un couple d'amis d'Emmanuel Carrère. Et la deuxième histoire qui lui arrive, j'ai envie de dire, un peu plus tard, c'est la maladie et le décès de la sœur de sa compagne, qui est mariée et mère de trois filles en bas âge. Donc, là déjà, ça part bien en termes d'ambiance, mais y a beaucoup de choses qui font que j'ai été vraiment marqué par ce bouquin, et que je ne l'ai pas juste jeté par la fenêtre au bout de deux lignes, comme on pourrait le croire avec un résumé pareil. Y a plusieurs choses. Déjà, au niveau du style, c'est dans la veine de l'autofiction. Donc il y a la perspective du narrateur lui-même sur cette histoire-là, que je trouve être en fait la plus honnête quand on raconte des histoires de vraies personnes comme ça. Il le raconte à travers ses yeux. Et au niveau du style, c'est quelque chose de très simple et de sans tabou, qui à la fois rajoute une énorme dureté, parce que du coup, il y a plein de choses vraiment concrètes, et j'ai presque envie de dire techniques, sur le décès qui sont abordées. Il y a notamment une scène vraiment qui est vraiment une de celles qui m'a le plus marqué dans le livre, où les parents de la petite fille qui s'appelle Juliette, dans la panique du tsunami, retrouvent la trace du corps de leur fille dans un hôpital à des kilomètres de là. Et le père ment à la mère en lui disant que tout va bien, et que leur fille est, qui est morte, mais qui est bien conservée. Et l'auteur raconte qu'en fait, une fois que la mère a tout tourné, il s'effondre en larmes en disant que, bah, qu'il était face à sa fille, qui est en train de... Voilà, que, comme tout corps, en train de se décomposer. Ça, c'est les moments vraiment les plus durs. Et d'un autre côté, le style est vraiment fluide, sans des litanies d'adjectifs lyriques. Voilà, on n'est pas dans une tentative de lyrisme qui, pour le coup, m'aurait fait fermer le livre au bout de quelques minutes. Donc c'est vraiment le cœur et l'intérêt de ce livre-là. Et la deuxième histoire qui est racontée, qui est donc la mort de cette femme, comporte aussi beaucoup de détails durs, concrets. Et d'un autre côté, Emmanuelle Carrère cherche à lui rendre hommage en parlant de son métier et de ce qu'elle faisait dans la vie. Et cette dame était juge et s'occupait notamment des questions de surendettement. Et donc, il raconte avec via le personnage d'Étienne, qui est un collègue de cette femme, qui s'appelle aussi Julienne d'ailleurs. Et donc, il raconte leur combat ensemble, leur travail et leur petite réussite. Et tout ça, pour moi, aboutit à un livre très réussi et qui aide beaucoup à se poser face aux questions de deuil, de décès, de perte d'un proche, dramatique, avec beaucoup plus de sérénité, presque, j'ai envie de dire. Voilà là-dessus.
Les références, du coup, tu peux les rappeler.
Oui, tout à fait. D'autres vies que la mienne, Emmanuelle Carrère, chez POL en 2009. Et depuis, c'est sorti en poche, je pense. Je suis sûr d'ailleurs. Voilà. Et là, je viens de voir le livre que j'ai pioché après, et on reste dans une ambiance difficile, mais au final, tant mieux. Il s'agit de Au fil de nos vies brisées, de Cécile Aignon. C'est un choix de Lisa, et je dois dire, c'est vraiment une passion chez Lisa, ce livre-là, qui nous en parle beaucoup, beaucoup au quotidien. Donc, oui. Très heureux qu'on puisse finalement vous en parler.
Oui, c'est un livre que j'ai découvert. Enfin, il est sorti en 2019 et il me semble que je l'avais acheté peu après sa sortie. Après, on en avoir entendu parler à la radio, justement. parce que la radio est une autre passion commune. et voilà, donc dans ce livre, Cécile Aignon dresse le portrait de la ville d'Alep à travers les yeux de ses habitants. Donc le livre est découpé en plusieurs parties, et dans chaque partie il y a plusieurs chapitres, et donc chaque chapitre est le témoignage d'une personne, une habitante d'Alep. Et voilà, donc il y a certaines personnes qui témoignent tout au long du livre, d'autres on n'a qu'un témoignage, mais bon, ça c'est pas très grave. Et en fait, donc ce livre raconte la vie à Alep avant la guerre, et puis pendant la guerre, jusqu'à ce que tout s'effondre, en fait. Et il m'a beaucoup marqué parce que sur le conflit en Syrie, je trouve qu'on en a beaucoup entendu parler sous l'aspect de l'aspect très géopolitique, avec l'armée syrienne, Daesh, la Russie qui intervenait, puis un peu aussi ce que faisait l'Union, enfin la France.
Bachar el-Assad aussi.
Oui, voilà, Bachar el-Assad. Enfin bref, tout cet aspect géopolitique qui est très, très détaché, je trouve, des histoires individuelles et du ressenti qu'ont les gens de cette situation, parce qu'il faut pas oublier que les premières victimes de la guerre sont les populations.
C'est vrai.
Voilà. Et voilà, donc Cécile Aignon, c'est une journaliste qui a été reporter de guerre au Maghreb et au Moyen-Orient, et donc elle a notamment couvert en 2012 le conflit en Libye à la suite de la chute de Kadhafi. Et puis, elle-même dans le livre, elle raconte qu'elle aurait dû partir en reportage en Syrie pour couvrir en 2011 d'abord les débuts des démonstrations, des manifestations, puis après en 2012 le début de la guerre, et sauf que ça n'a pas été possible pour plusieurs raisons. Et donc elle a choisi de recueillir des témoignages des habitants et habitantes d'Alep qui ont été contraints à l'exil. Après la chute de la ville, voilà. Et donc elle revient aussi un peu sur son métier de journaliste, puisque de manière assez régulière dans le livre, il y a des chapitres où qu'elle consacre à un peu, qui est un peu une forme, je trouve, d'autobiographie, où elle réfléchit à qu'est-ce que c'est qu'être journaliste, comment gérer le métier aussi de reporter de guerre. Et voilà, genre c'est un livre qui est pas très facile à lire, j'avoue que à des moments compte tenu de la violence qui est racontée, j'ai dû le poser pour faire une pause et après avant de pouvoir le reprendre. Mais c'est un livre que je trouve qui est un peu d'utilité publique parce que du moins en Europe, on est très loin de s'imaginer de qu'est-ce que ça veut dire que de vivre dans une ville en guerre, de ne plus pouvoir reconnaître son quartier, de perdre tous les repères. Et voilà, donc c'est une des raisons pourquoi je conseille le livre, outre le fait qu'il soit très bien écrit et où ces témoignages ont été très bien transcrits. En complément, donc si le livre vous a plu, en complément, je vous conseille notamment de regarder le documentaire de la journaliste syrienne Ouad El Kateb, qui est intitulé Pour Sama, qui est en fait... En parallèle au livre de Cécile Aignon, elle a filmé elle-même son vécu des manifestations et de la guerre à Alep et de la résistance qu'elle a organisée avec des amis et son mari. Et donc ce film est un peu un témoignage à sa fille qui est née pendant la guerre en Syrie, quoi, et pour rappeler un peu. Bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé et comment c'était. Donc je rappelle un peu les références de livre de Cécile Aignon. Donc le titre c'est Au fil de nos vies brisées. Alors la version qui n'est pas de poche a été publiée aux éditions Anne Carrière. Voilà.
C'est un livre qui a eu le prix Joseph Kessel 2019, si je lis bien tes notes. D'ailleurs, oui, le livre d'Emmanuel Carrière a eu aussi beaucoup de prix. C'est marqué sur la couverture aussi. Donc...
Voilà.
Parlons-en.
Je tire le.
C'est un gros livre.
Là, c'est un gros livre, ouais, il y a 500 et quelques pages.
Là, on a la version papier ici, c'est un livre important.
Mais ouais, ouais. Bon, allez, je tire le prochain.
Vas-y.
Qui est Les Amants d'Hérouville de Yann Lequellec et Romain Ronzo.
Je crois que je l'ai mal écrit.
Ok, c'est ma faute.
Je crois que je l'ai mal écrit, ça c'est très possible. Oui, Romain Rose, qui est un de mes choix. Il s'agit d'une bande dessinée qui est sortie cette année aussi, en février 2021 donc. À la base, le sujet principal de la bande dessinée, c'est Michel Magne, qui est compositeur de musique, notamment de musique de film. C'est lui, par exemple, qui a fait la musique des Tontons Flingueurs, et je ne le savais pas, ou des Misérables de Robert Hossein, qui fait beaucoup de musique de film dans les années 50, 60, 70. Dans les années 60, ce Michel Magne achète un château dans le Val d'Oise, le château d'Hérouville, et il a une ambition énorme sur ce truc-là, et il veut en faire vraiment un lieu incontournable de la musique de cette époque-là. Donc il va en faire des studios vraiment de pointe, dans lesquels vont venir enregistrer des stars internationales, genre Marvin Gaye, David Bowie, les Pink Floyd, Elton John, plein d'autres, ou des artistes de variété française, genre Eddie Mitchell, Jacques Higelin, Claude Nougaro. Et donc la BD, au travers de son histoire d'amour avec la jeune, à l'époque jeune Marie-Claude, mais très bien alors là, il y a des travaux dehors, visiblement, mais ça, ce sont les aléas du direct. Ça n'est pas un direct, mais ce sont les aléas quand même.
Et de la vie étudiante.
Et de la vie, oui, en général. Et donc, la BD fait bien ressortir cette équivalence-là de l'histoire et de l'époque, du monde rock aussi, de ces années-là, avec d'un côté d'énormes fastes, des succès énormes, une vie un peu... sexe, alcool, drogue, rock'n'roll, et d'un autre côté, les bas et les échecs, le côté tragique, la violence de cet homme, de Michel Magne, sa mauvaise gestion qui amène à la liquidation de cette histoire-là, au fait que le château d'Hérouville soit abandonné pendant de nombreuses années et à son suicide, Michel Magne. Donc il y a vraiment cette ambivalence qui est très... Qui est très présente, qui est très bien dépeinte. Les dessins sont vraiment chouettes, c'est une très belle ambiance graphique. Et dedans, il y a aussi un dossier photo de l'époque, Donc de ces personnes-là, Michel Magne, Marie-Claude, que les auteurs ont rencontrés, les artistes aussi qui sont venus, c'est très intéressant. On parle aussi du travail de musique expérimentale de Michel Magne, qui, une fois dans une salle de concert, a fait de la musique d'ultrason et a voulu pousser le délire si loin qu'il a fait vomir les gens. C'est vraiment, il y a vraiment plein d'histoires incroyables dans cette BD. Et il y a notamment, moi, ça m'a marqué dedans, mais ça c'est personnel, des photos de cette dame, Marie-Claude, qui revient dans les ruines du château d'Hérouville. Et c'est incroyable parce que dans la BD, on voit des dessins de David Bowie ou de gens comme Elton John en train de se baigner avec des gens à moitié nus dans la piscine du château. Et on revoit cette même piscine du château dans les années 2000-2010, dans laquelle les plantes ont poussé, le lierre a monté sur le château. Donc ça, c'est vraiment une mise en abîme incroyable, j'ai trouvé. Et petite anecdote qui clora après des... Qui clora, c'est, je sais pas.
Qui clore.
Non, mais dans le futur.
Qui va.
Enfin voilà.
La langue française.
Voilà, c'est bon, on est fatigué. qui termine ce truc-là, c'est que le château d'Hérouville est réhabilité en ce moment et à partir de 2016, il y a des enregistrements et des performances, notamment de Sting, qui ont eu lieu là-bas. Voilà. Et je pioche le prochain. Les références, tout à fait. Voilà, ça, il faut me dire à chaque fois. Les Amants d'Hérouville de Yann Le Kellec et Romain Ronzo, paru en 2021, et je n'ai pas noté la maison d'édition, donc je la chercherai à un moment pendant que Lisa parle ultérieurement.
De toute façon, on mettra toutes les références.
On mettra toutes les références quelque part.
Dans la description.
Et c'est Lisa qui parle maintenant, puisqu'il s'agit de son choix, Le rêve de l'Okapi, de Mariana
Lecky.
Mariana Lecky. Et on a également le bouquin en papier.
Le bouquin, enfin la version allemande.
On a une version. Oh, ça c'est formidable. On a une version.
Voilà, donc c'est un livre que je suis actuellement en train de lire et qui m'a été conseillé par ma maman.
Pourquoi pas conseil. Voilà.
C'est donc un livre d'une auteure allemande, Mariana Lecky, et dont le titre allemand, je vais le lire quand même, Was man von hier aus sehen kann, ou le titre français qui est Le rêve de l'Okapi. Donc c'est un livre qui a été publié, je vais vérifier.
Et là, tu auras la publication en allemand.
En 2017. Voilà. Donc c'est un livre qui a été publié en 2017 et qui est une fiction, c'est un roman, qui raconte la vie au village, dans un village de Rhénanie-Palatinat. Donc j'espère que vous arrivez tous à peu près à situer où se trouve la Rhénanie-Palatinat.
Moi, je n'y arrive pas, donc ouais. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave.
C'est une très belle région.
Il y a vraiment... je sais pas ce qui se passe dehors, mais il y a un espèce de connard qui il est 18h30, et il y a quelqu'un, un dimanche, et il y a quelqu'un qui est visiblement en train de taper avec un marteau.
Quelque part.
Sur des... Mais on dit... Enfin, bref, voilà.
On se retrouve actuellement dans son résidence étudiante.
Nous sommes actuellement... oui, tout à fait. Oui.
Donc, pour revenir au rêve de l'Okapi.
Revenons au rêve de l'Okapi.
Voilà, donc c'est un roman qui raconte l'histoire dans un village de Rhénanie-Palatinat. Et ce roman commence sur le fait, enfin, le premier fait que le lecteur apprend en lisant le début du roman, c'est que lorsque un des personnages du livre, qui s'appelle Selma, qui est un personnage central, rêve d'un Okapi, eh bien, dans les 24 heures qui suivent ce rêve, quelqu'un du village mourra. On ne sait pas trop si c'est une superstition ou si c'est vraiment un fait avéré, mais en tout cas, voilà. Au début du roman, donc Selma rêve d'un Okapi, et puis tout le village s'affole un peu quant au fait de bah, est-ce que je vais mourir aujourd'hui, quoi.
C'est légitime.
Ouais, c'est un peu légitime. Et en fait, à travers ça, l'autrice... On dit l'auteur ou on dit l'autrice?
Dire l'autre, je crois que alors c'est un débat, mais tu dis ce que tu veux.
Voilà, on va dire l'autrice, comme ça on est assez clair que c'est une femme qui a écrit ce roman. Décrit un peu l'être humain dans toute sa complexité, un peu ses torts et tous ses travers. Et voilà, et en fait, l'histoire est racontée par Louise, qui est la petite fille de Selma. Et puis voilà, on découvre un peu ce portrait d'un village et de ses habitants. avec des personnages qu'on pourrait tous retrouver un peu dans nos vies quotidiennes. Donc il y a par exemple un opticien qui est fou amoureux mais qui n'arrive pas à confesser ses sentiments à la personne qu'il aime. On a un peu les commères du village. Il y a aussi un peu une jeune femme qui... Je sais pas si le meilleur mot pour la décrire, c'est est-ce qu'elle est asociale ou est-ce qu'elle...
Misanthrope.
Non, c'est juste elle vit toute seule et elle aime pas trop les gens.
J'ai tenté, d'accord, ok.
Il y a bien sûr il y a Louise qui grandit au milieu de tout ça avec son meilleur ami Martin. Il y a on a le père de Louise qui ne jure plus que par les conseils de son psy et qui a une envie de voyage qui est un peu limite un peu trop excessive. Et voilà, et en fait, donc c'est un livre que personnellement je le lis en allemand, et c'est le premier livre en allemand que j'arrive à lire, puisque j'ai essayé maintes et maintes fois à lire des livres en allemand, mais sans grand succès. Et pour l'autrice, oui, écrit d'une manière genre très légère, très, très facile à lire et drôle aussi. Donc voilà, pour les germanophones, je conseille de le lire en allemand.
C'est écrit en allemand à la base ?
Et c'est écrit en allemand à la base, voilà. La version originale est en allemand. Et pour ceux qui ne parleraient pas l'allemand, eh bien, je conseille aussi
la version française. Je suis heureux pour vous. Premièrement, voilà. Grand bien vous fasse.
Je vous conseille aussi la version française qui a été traduite par Céline Meurice. Il faut toujours bien remercier les traducteurs parce que c'est un dur métier.
J'ai la thèse.
Voilà, je rappelle les références. Donc, Le rêve de l'Okapi de Mariana Lecky, donc traduit par de l'allemand par Céline Meurice aux éditions JC Lattès. Et je
précise tout de suite d'ailleurs que aucune maison d'édition, ni aucun ou aucune autrice, auteur ne nous ont rémunérés ou corrompus de quelque sorte que ce soit pour cet épisode et pour les autres épisodes.
On a juste regardé ce qu'il y avait dans notre bibliothèque et on s'est dit c'est intéressant.
On a fait au pif, au sentiment. Et
je tire le prochain titre.
Allez, on y va.
Qui est À la ligne de Joseph Pontus.
Ouais.
Pontus ou Pontus ?
Je ne sais pas. Alors, À la ligne de Joseph Pontus, 2019 aussi. Il s'agit d'un livre vraiment étonnant, surtout par sa forme, puisque c'est un livre écrit entièrement en vers libre. Donc, comme une grande poésie en vers libre, un peu sur le modèle de Iliade et l'Odyssée. Mais les sujets abordés sont extrêmement contemporains, puisqu'il s'agit de la vie d'un ouvrier en France au XXIe siècle. Donc Joseph Pontus a travaillé, il raconte sa vie dans le livre, il a travaillé en usine, de mémoire dans le livre, dans une usine de transformation de poissons et de crustacés. Et après, je crois, dans une usine qui travaille de la viande, mais dans tous les cas, dans le secteur de l'agroalimentaire. Et il raconte dans ce livre-là tout ce qui est la vie d'un ouvrier, de manière, encore une fois, concrète, malgré le fait que c'est écrit en vers libre. Il raconte la dureté du métier, sa fatigue extrême. Ouais, je suis souvent marqué par des scènes dans les livres, et il y a une scène où il raconte son désespoir quand, pendant son jour de repos, il va se balader à la plage avec son chien et qu'il n'a vraiment pas la force physique de jouer plus avec son chien. C'est souvent très fort, et d'un autre côté, il nous parle aussi de ce qui lui fait tenir, l'amour de la musique, l'amour de la poésie. Il parle beaucoup de ce qu'il chante, des vers qu'il se récite. C'est un livre qui a eu un immense succès critique. Alors, on ne les évoque pas trop, mais il a notamment eu le prix RTL Lire, le grand prix RTL Lire, pardon, et que je ne peux que recommander parce que, et d'un point de vue littéraire, dans le style et la forme, et dans le fond, qui est quand même la parole une parole très peu mise sur le devant par la littérature, la parole des ouvriers, un livre, encore une fois, on le dit souvent, mais absolument nécessaire, d'autant plus que, malheureusement, l'auteur nous a quittés cette année, en 2021, à seulement 42 ans, ce qui est pour moi une occasion vraiment de remettre son formidable travail en lumière. Et Je pioche le prochain.
Les références.
Voilà, les références. À la ligne de Joseph Pontus, 2019, aux éditions de la Table Ronde. Ça n'est toujours pas un partenariat. Le prochain papier, il ne s'agit pas d'un livre, il s'agit d'un nom. Et ce nom, c'est Sorge Chalandon. Alors, pourquoi qu'un nom ?
Parce que c'est un auteur, personnellement, que j'ai découvert pendant ma deuxième année d'études, dans le cadre... un professeur nous avait demandé de...
Dans un séminaire obligatoire,
nous avait demandé de lire Le Quatrième Mur, donc publié en 2013.
C'est possible.
Et puis, je suis un peu cet auteur. J'attends avec impatience de lire son prochain livre.
Qui est sorti cette année, d'ailleurs. Ouais. Le Quatrième Mur, c'est un livre qui parle en gros d'une personne qui s'appelle Samuel et qui veut aller monter une pièce de théâtre, Antigone, à Beyrouth, dans un Beyrouth en guerre. Et il a l'idée de faire jouer plein de membres de diverses nationalités ou de diverses communautés ethniques dans cette pièce et de créer un instant de paix dans cette pièce.
Il faut dire que le personnage Samuel, c'est quelqu'un quand même qui est un peu obsédé par l'idée de révolution, de la guerre, et qui a, il a une obsession, et il s'est dit, je vais aller dans un pays en guerre. Même je veux aller dans un pays en guerre pour voir de mes propres yeux qu'est-ce que la guerre. Et voilà, et donc c'est un livre qui nous a beaucoup marqué.
Ce qui est particulier dans ce livre-là, c'est que Sorge Chalandon, avant d'être écrivain et journaliste et reporter, et que ces choses-là dont il parle, il y a un moment où le personnage se retrouve pendant... on fait pas tout l'historique du livre, mais il se retrouve pris à Beyrouth pendant un célèbre massacre qui a eu lieu là-bas, et c'est un massacre sur lequel Sorge Chalandon a été en tant que... de mémoire, si je...
peut-être que... Oui, voilà. il me semble aussi
qu'il y a été en tant que journaliste et donc reporter de guerre. Je crois qu'il était reporter de guerre pour Libération, mais je suis plus sûr. Et maintenant, il écrit pour le Canard Enchaîné. Donc ça, c'est un coup de cœur pour moi. Et moi, après, j'en ai lu deux autres. C'est pour ça qu'il y avait juste son nom et pas un livre spécial. Mon traître, qui parle... parce qu'il a aussi beaucoup écrit sur l'Irlande et les conflits irlandais. Ainsi que l'avant-dernier, sorti en 2019, qui s'appelle Une joie féroce. Et Une joie féroce, c'est une histoire, encore une fois, sur des thèmes très graves.
On aime les thèmes joyeux dans ce podcast.
Vraiment, là, c'est terrible. Hein. Tout est sombre. Mais quand même, une joie féroce, le titre est bien trouvé, je trouve, parce que ce sont trois femmes malades, atteintes d'un cancer, qui décident, voilà, tant qu'à faire, d'aller braquer une banque. Une bijouterie, je crois. De mémoire, c'est une bijouterie qu'elles vont braquer. Et donc, c'est ce récit... fort et truculent qui est fait par le... Oh, j'ai utilisé le mot truculent. Oh, wow. Utilisé par le... qui est fait par Sorge Chalandon. Donc, voilà, c'est un auteur qu'on aime beaucoup ici.
De manière générale, oui, c'est quelqu'un qui écrit très bien.
Ah oui,
très clair, très...
C'est fort aussi, c'est très fort. Le Quatrième Mur, c'est un livre, il faut le tenir. Enfin... Ouais. J'ai rencontré des gens qui avaient vraiment pleuré toutes les larmes de leur corps devant ce livre, et il est effectivement... Il y a des passages vraiment durs.
Globalement, quand on a dû lire ce livre pour ce séminaire, genre, j'ai pas souvenir qu'une personne m'ait dit « j'ai pas du tout aimé ce livre ».
Non, c'est vrai, c'est quelque chose qui a fait quand même une belle unanimité parmi les gens qu'on connaît et qui l'ont lu. Et qui écoutent ce podcast, puisque je trouve qu'actuellement, ce sont les mêmes personnes. Donc, on vous embrasse. Et voilà.
Donc, Sorge Chalandon.
Oui, qui publie chez Grasset.
Là, j'ai la version livre de poche du Quatrième Mur. Et puis après, nous avons
Une joie féroce.
Et l'autre livre que tu as dit,
c'est... Mon traître.
Mon traître, voilà. Je pioche le prochain.
Vas-y.
Qui est La cantine de minuit de Yarrow Abe, qui est un thème un peu plus... Un peu plus fun.
C'est le fun.
C'est là, ça va nous donner faim.
Il s'agit d'un choix de Lisa.
Exactement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant de One Piece, j'ai eu une obsession par le passé pour les mangas. Un peu moins aujourd'hui, malheureusement, mais Je suis toujours aussi heureuse quand j'ai entre mes mains un bon manga. Et là, du coup, j'ai envie de vous parler du manga La Cantine de Minuit de Yaro Abe. Et qui est en fait un manga qui raconte l'histoire d'un monsieur et de son restaurant. Donc c'est un restaurant qui est dans les quartiers de Shinjuku, dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, au Japon. Et donc ce restaurant a deux particularités. La première, c'est qu'il est ouvert de minuit à 7h du matin. Et la deuxième, c'est que sur sa carte, donc sur son menu, il n'y a que deux choses au choix. Premièrement, il y a le tanjiru, et donc il y a une sorte de soupe de miso au porc, et puis aussi du saké. Voilà, donc si vous allez là-bas, vous avez le choix entre ça et ça. Mais une autre chose, c'est que... Attends, comment on peut dire ?
Bah, alors, si j'ai bien compris, parce que ça, on en avait parlé la première fois quand on l'a enregistré, mais l'idée, c'est qu'il y a ces deux trucs-là, à la carte, un plat et une boisson, et on arrive dans le restaurant... On demande n'importe quel plat et le cuisinier le fait s'il a les ingrédients.
Exactement.
Donc on peut typiquement y aller en demandant des pâtes au ketchup.
Ouais, par exemple, là j'ai le tome 9 sous les yeux. Et puis là, il y a un client qui demande du tenchidon au riz sauté. Je ne saurais pas vous expliquer ce que c'est, pour ça il faut le dire.
Qui n'est pas non plus un super business plan, parce que ça nécessite quand même d'acheter plein d'ingrédients au hasard. Bon, ça on en reparlera plus tard, mais dans Cauchemar en cuisine, lui il prend un...
Il
prend une torgnole, ça je vous le dis.
Mais du coup, en fait, dans ce manga, Yaro Abe nous fait le portrait, en fait, nous fait le portrait de la société japonaise, je dirais d'une manière un peu générale, à travers plein d'histoires individuelles. Exactement. Donc, en gros, ce manga chaque tome est composé d'une trentaine d'histoires, donc c'est qui se lisent un peu sous la forme de nouvelles, et donc chaque histoire raconte une personne et raconte un plat. Donc en général, une personne est associée à un plat. Et c'est comme ça qu'on découvre en fait la société japonaise et puis tous les plats japonais. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait avoir faim, parce que c'est un manga qui vous donne envie de foncer dans votre cuisine, d'abord au supermarché pour acheter les ingrédients et puis tenter de les reproduire. Et voilà, c'est un manga qui se lit soit à petite dose, soit d'un coup, mais qui se lit très bien. Et aussi, qu'on peut lire dans le désordre. C'est pas un manga où on a besoin de lire les tomes 1 à 9 ou à 10, parce que je crois qu'il y a 10 tomes qui sont parés en France. On n'a pas besoin de lire les tomes 1 à 10 en suivant l'ordre, mais on peut bien commencer par le 1, puis passer par le tome 7 ou par le tome 9, comme moi j'ai fait, parce que je n'ai pas les autres. Pour la petite anecdote aussi, il y a une série sur Netflix qui reprend ces histoires. Et voilà, donc c'est quelque chose que je conseille fortement, qui est très facile à lire et qui ne parle pas de sujets très compliqués comme,
c'est vrai.
comme les livres précédents qu'on vous a présentés.
Tant mieux.
Donc, je rappelle les références. La Cantine de Minuit de Yaro Abe, et qui est paru aux éditions Le Lézard Noir, donc pour l'édition française. Si vous parlez japonais et que vous avez envie de le lire en japonais...
On ne connaît pas l'édition, de toute façon.
Je ne pourrais pas vous dire l'édition, mais...
Google est ton ami.
Voilà.
Le dernier, voilà. On arrive à la fin. Il s'agit de Au printemps des monstres de Philippe Jaenada, paru chez Miale Baro éditeur, en août de cette année 2021. En fait, je me suis rendu compte qu'il était très difficile de définir vraiment ce livre ou de le résumer simplement. En gros, il y a un fait divers, réel, c'est une enquête réelle. En 1964, le corps d'un enfant est retrouvé mort en forêt. Cet enfant s'appelle Luc Taron. Et donc, une enquête commence à s'ouvrir, patauge, et un homme va commencer à envoyer des lettres, un peu comme un corbeau, partout, inondé de lettres, les médias, les parents, la police, en décrivant des choses atroces et en ayant une connaissance assez précise de la scène pour qu'on se rende compte que cette personne a vraiment un lien avec la mort de cet enfant. Ce corbeau se fait finalement arrêter cette année-là, quelques semaines après. Il s'appelle Lucien Léger, il est condamné pour le meurtre de cet enfant, et va passer très longtemps en prison. Au moment de sa sortie en 2005, il était le plus ancien prisonnier de France. Ça, c'est le fait de base qu'il écrit dans une première partie. Et l'intérêt clé du livre, c'est que Jayananda livre une énorme, mais une énorme contre-enquête sur cette affaire-là, qui va lui prendre, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 ans de sa vie, et qui va recouvrir les presque 800 pages de ce livre. Une contre-enquête incroyable, extrêmement poussée, dans laquelle il va tout d'abord mettre à jour la vraie nature des personnages, et il se rend compte que à un degré divers, tous les personnages sont des gens immondes, que ce soit le père de la victime à des officiers de police qui ont vraiment fait un mauvais travail, à des gens du côté de Lucien Léger, et Lucien Léger lui-même, évidemment, parce qu'il a quand même fait et écrit des trucs atroces. Il y a des histoires incroyables de résistants, dont Jayananda découvre qu'ils n'ont pas vraiment été résistants, mais bien plutôt collabos de la pire espèce, si je peux dire comme ça, et, à des affaires de mœurs du père de l'enfant. Tout ça est vraiment fascinant à lire. C'est vraiment très dense, très long. Et en fait, voilà, c'est un livre qui est dans la veine des derniers livres de Philippe Jayananda, dont La Serpe, qui avait eu le prix Fémina, et La Petite Femelle. Et comme dans ces livres-là, cette énorme enquête contre enquête, il la ponctue de petits éléments rigolos et bucoliques sur lui, sa manière d'enquêter, sa vie. Donc dans celui-là, il y a des petits moments où, au milieu de l'affaire Luc Taron, il vient nous parler de « Ah bah tiens, j'étais chez le dentiste, et en plus, et il s'est passé ça et ça », où il y a dans La Petite Femelle, il y a un moment hilarant où il nous raconte une cuite monumentale qu'il a pris au Café de Flore. Enfin, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais dans le livre, c'est toujours bien amené, c'est très drôle, et ça permet vraiment de raccrocher à un truc pendant de longues discussions, et c'est drôle et utile dans le style. Moi, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé fascinant parce que, en plus de cette contre-enquête sur un fait divers, en fait, il livre le portrait de cette époque-là, des années 60, avec tout ce que ça... Dont nous, on garde un souvenir vraiment... Pas nous deux personnellement, mais l'opinion publique garde un souvenir plutôt positif avec l'émancipation, les yéyés, tout ça. Et en fait, qui est une époque avec encore le poids et le traumatisme de la guerre, avec de nombreuses peurs, avec un modèle économique qui commence déjà à montrer des signes d'essoufflement, avec le fantôme de l'Algérie aussi, de la guerre d'Algérie. Ça transparaît dans le livre aussi. Beaucoup de choses. Et finalement, Philippe Jayananda, pour moi, c'est vraiment un très bon livre. Ouh là là, non, ça ne veut rien dire du tout. Mais pour moi, c'est vraiment un très bon livre. Et de belles histoires humaines aussi. L'histoire de Solange, par exemple, qui pour l'auteur est vraiment le rayon de soleil du livre. Ce sont des histoires fortes. Et encore une fois, son style simple, sans embarre. En fait, Jayananda écrit vraiment comme s'il nous parlait. Donne vraiment à un moment cette puissance-là aussi. Donc voilà.
Parce que
sinon je vais me faire reprendre. Donc c'était Au printemps des monstres de Philippe Jayananda, paru cette année chez Mialet Barreau éditeur, et qui probablement sera édité en poche ultérieurement.
Ouais. Et puis...
Ce qui finit cet épisode.
Exactement.
Un épisode fleuve, un épisode problème technique.
Un épisode aussi où c'est la première fois que nous avons parlé sans script.
C'est vrai.
On va tenter de...
Non, c'est pas vrai, parce qu'on a des notes quand même. Hein. On a travaillé ce truc-là.
Oui, non, mais je veux dire, sans script, on n'a pas...
Oui, c'est vrai, c'est le premier.
On n'a pas écrit. Et puis, bah, déjà, on espère que ça vous a plu.
Que vous êtes restés jusqu'au bout, parce qu'il va être long.
Ça vous a donné envie de lire, relire, découvrir... des livres.
Enfin, que ça a bien marché, quoi, en gros.
Si jamais vous avez des livres à nous conseiller, n'hésitez pas, parce qu'on est toujours preneurs.
Et sinon, eh bien, on espère, on vous remercie pour cette année, quand même, qui était notre première, l'année 2021. Et en 2022, nous sommes de retour, et avec À la Loupe, un épisode sortira normalement en février, mais je ne m'avance pas trop. Et La vie en vrai, bien sûr, ce
qui est notre
deuxième podcast qu'on vous conseille vivement d'aller checker aussi. Et des épisodes sont en préparation aussi.
Voilà.
Merci à tous.
Merci pour votre patience et pour votre écoute.
Pour votre patience. Et bonne fête, bonne fin d'année. Et si vous écoutez ce podcast plus tard, bonne journée. Voilà.
Ouais, jusqu'au prochain épisode.
Au revoir. Jusqu'au prochain.
Le snobisme est quelque chose de presque sympathique.